Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Surianto, et on va être ensemble maintenant. Aujourd'hui, samedi 22 octobre 2016, il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ses auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par les journaux, suivi le point de vue. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre mission, la rubrique d'extraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Ces unités auditives, voici le journal aujourd'hui. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Puspayoga, a dit que les PME de l'Indonésie ont dû comprendre la technologie et utiliser Internet comme la partie d'une stratégie de marketing et l'image du produit. Parce que l'ère de la numérisation est devenue une partie intégrante du commerce intérieur et le marché international. Puspayoga, en marge de l'inauguration du village des PME numériques au centre intégré à Cianjur, Java West, a déclaré récemment que la digitalisation aura un impact sur l'amélioration de productivité et des services des PME. Il y a des défis pour réaliser, à savoir comment maintenir la continuité et la qualité du produit. Si cette question peut être résolue, les PME seront un succès et une croissance rapide. Le chef de l'Agence nationale de la planification de développement, Bappenas Bambang Brojonegoro, a estimé vendredi que le développement des infrastructures dans ce pays devait être approprié pour être vraiment bénéfique pour beaucoup de gens. Les besoins de financement du développement des infrastructures pour la période 2015 jusqu'à 2019 est d'environ 4,79 trillions roupias. Baba a dit qu'afin d'encourager la participation privée, l'un des schémas importants est la coopération entre les gouvernements et les entreprises dans son développement. La réalisation de la clôture financière de la coopération entre le gouvernement et des entreprises pour la période 2015 à 2016 atteint 63,86 trillions roupias. En plus des programmes de coopération entre le gouvernement et les entreprises, l'alternative de financement qui continue d'être encouragée par le ministère de la Planification, Bappenas, est le financement d'investissement non bougé, en utilisant entre autres les sources de financement à long terme, telles que des fonds de pension et sociétés de financement de l'infrastructure. Poso organisera un événement touristique, Festival du charme de l'art tectonique Poso. Selon le raisin de Poso Darmin Agustinus Sigilipu, le festival de cette année sera différent des années précédentes et assistera par le vice-président Yusuf Kala le 5 novembre. Darmin Agustinus Sigilipu a déclaré récemment à Jakarta qu'il cible la visite des touristes jusqu'aux 50 000 personnes. Ce festival est organisé pour démontrer aux touristes nationaux et étranger que la région de Poso est maintenant plus sûre après le conflit. Il essaie de montrer la région de Poso aujourd'hui est plus sûre qu'il y a quelques années. Ceci est prouvé par la mise en œuvre des activités qui ont été également assistées par les milliers de personnes à Poso et les régions avoisinantes. Le dernier, le premier ministre malaisien Najib Razak et le ministre indonésien du Commerce Enggar Tias Tolu Kito sont d'accord pour réactiver Des Malaisie Indonésie ou Des Malindo pour renforcer les relations du commerce de deux pays. Enggar Tias Tolu Kito, à l'occasion du forum d'affaires indo-malaisien à Kuala Lumpur, a dit récemment que dans l'avenir, il y aura un représentant dans les ministères des deux pays pour qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Avant qu'Enggar Tias Tolu Kito avec le groupe du président indonésien de chambre et de l'industrie, Rosan Ruslani, ont été raconté le premier ministre Najib Razak au Parlement, dans le Parlement local, en mars d'une rencontre entre le premier ministre avec les membres parlementaires. Les deux parties veulent augmenter les relations commerciales. Selon Enggar Tias Tolu Kito, il a également discuté de l'étiquette halal. Il va également discuter ensemble sur l'huile de palme brute ou CPO des deux pays pour faire face à la campagne négative sur la santé. Ces auditeurs auditis, c'était notre journal aujourd'hui. Les amis de divers événements importants qui se sont passés dans cette semaine sont discutés par divers quotidiens connus à Jakarta. Nous commençons avec l'éditorial du journal Compass le 21 octobre qui a écrit « Il y a encore beaucoup de travail ». Youssouf Kalla avait deux ans sont célébrés avec des enquêtes, des interviews et l'évaluation. Le président Joko Widodo montre comment le président a utilisé son pouvoir de réorganiser le cabinet et comment il a ordonné la mise en œuvre du prix du combustible en Papouasie. Ceci est le premier percé et l'audace d'un président. En termes de président de calcul économique, l'étape de Joko Widodo sera évidemment chargée de bouger à long terme. Mais Joko Widodo a d'autres considérations, à savoir la justice sociale. Le public va observer la mesure dans laquelle la politique peut être soutenue. Un certain nombre d'enquêtes montrent la satisfaction publique avec l'amélioration de la performance du gouvernement Joko Widodo. L'image du président Joko Widodo était à 91,4%. La satisfaction avec le gouvernement est dans la figure 61% parmi les quatre secteurs politiques, juridiques, le bien-être social et économique. Le secteur juridique est pire. Selon le quotidien Compass, dans le monde de Joko Widodo Youssouf Kalla, les réformes seront déterminées. Le sort de la réforme n'ont été testés. La vision et le leadership du président sont nécessaires pour concevoir et construire les bases de l'élection. En plus de problèmes politiques, la disparité économique qui est de plus en plus large doit être une préoccupation. La Constitution et les lois devraient être réutilisées comme ligne directrice en matière de gouvernance. Selon ce quotidien, la détermination des agents publics devrait examiner la compétence et non pas d'autres considérations. Ensuite, l'éditorial du journal Média Indonésia le 21 octobre a écrit « Hasser les racines du terrorisme ». L'indication que le terrorisme n'a pas été épuisé dans ce pays est vraie. Encore existent des cellules terroristes ont été de nouveau prouvées hier quand un jeune cadre russo terroriste qui a revendiqué enquêteur de russo État islamique a attaqué le chef de la police du secteur Tangra. Le commissaire Effendi ainsi que deux autres membres de la police se fait prouver que les terroristes errent encore autour de nous. Le radicalisme continue de se propager malgré quelques pivots centrales ont été arrêtés. Sans le savoir, les toxines du terrorisme sont propagées en particulier aux jeunes avec la compréhension religieuse encore instable. Ils sont prêts à répandre la terreur et la peur dans la société. L'incident à Tangerang hier doit être lu comme un investissement pour le gestionnaire de ce pays pour ne pas jamais desserrer la vigilance contre la menace du terrorisme. La vigilance et la manipulation du terrorisme ne peuvent pas être faites de la façon sporadique. Selon le journal Média Indonesia, la révision de la loi du terrorisme devrait faire des mesures globales de prévention comme une priorité à éradiquer. Sans elle, un crime contre l'humanité appelle le terrorisme va continuer probablement d'être une menace à ce pays. Le dernier, l'éditorial du journal Republica le 17 octobre a écrit « Réaliser la souveraineté alimentaire ». La disponibilité et l'abordabilité des prix des denrées alimentaires en affaissant l'anomalie climatique deviennent une question importante qui doit être sérieusement examinée par le gouvernement. Comme le discours monumental de Bung Karno lors de la pose du premier pierre du bâtiment de la faculté d'agriculture de l'Université d'Indonésie, qui est actuellement dans l'Institut agricole de Bogor le 27 avril 1952, la présence de la nourriture est la question de la vie et la mort d'une nation. Mais après 74 ans, jusqu'à présent, le problème de l'alimentation ne serait pas allé plus comme la complexité augmente. Le bien-être des agriculteurs est loin de ce qu'on espère, bien que le développement agricole va, le secteur agricole est toujours éclipsé par le dilemme des importations de produits alimentaires. Selon Republica, pour surmonter les problèmes de nourriture, au moins, on nécessite les politiques qui sont intégrées de l'amont à l'aval. Toutes les parties espèrent que l'élan de la Journée mondiale de l'alimentation, qui est adjacente à 2 ans, la gouvernance de Joko Widodo et Yusuf Kalla, sera en mesure de réaliser la souveraineté nationale de la vraie nourriture. Le programme de travail du cabinet Joko Widodo et Yusuf Kalla, qui est pour la souveraineté alimentaire, doit être soutenu par toutes les parties. C'était la revue de presse. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition le 22 octobre. On va commencer le 22 octobre 1938 en fonction de la photocopie. L'Américain Chester F. Carson invente la photocopie avec l'aide de son assistant Otto Corney. Il réussit à imprimer ces mots dit 2238 Astoria. La première machine sera commercialisée en 1954 sous le nom Xerox 914. On continue le 22 octobre 1952, l'Iran rompt ses relations diplomatiques avec l'Angleterre. La compagnie pétrolière anglo-iranienne Oil Company impose à l'Iran un doublement des redevances sur le pétrole. L'Iran refuse et décide de nationaliser son pétrole. La Grande-Bretagne accepte la loi de nationalisation mais exige une compensation. Cette persistance conduit à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. En août 1953, le premier ministre Mossadegh sera démis de ses fonctions et arrêté. L'Iran pourra alors instaurer un nouveau dialogue avec l'Angleterre. On termine le 22 octobre 1956, une alliance se forme contre l'Égypte. En réaction à la nationalisation du canal de Suez décrétée par le président égyptien Nasser, la Grande-Bretagne, la France et Israël se réunissent secrètement à Sèvres. Les divers représentants concluent un accord d'invention commune en Égypte afin de s'emparer du canal. Chacun des trois États a des intérêts différents. La Grande-Bretagne, qui domine et contrôle Suez depuis des décennies, craint que la nationalisation affecte son économie. La France, de son côté, intervient afin de renverser le président égyptien, laquelle soutient les nationalistes algériens contre le colonialisme français. Quand à Israël, elle espère mettre fin à l'occupation égyptienne dans la bande de la Gaza. Après deux jours de discussion, une opération d'attaque est mise au point et débutera le 29 octobre. Il est convenu qu'Israël attaque le Sinaï. La France et la Grande-Bretagne en feront alors leurs troupes sous prétexte de défendre les zones par tout canal. Ces auditeurs auditifs, c'était notre histoire d'aujourd'hui, ce soir, le 22 octobre. À demain.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre, OCI apprécie l'initiative de l'Indonésie pour la paix.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI, Iyad Madani, apprécie l'initiative du gouvernement d'Indonésie pour créer la paix en Palestine, comme affirmé le ministère des Affaires étrangères dans son annonce de presse le mercredi à Jakarta. Cette appréciation était transmise par le secrétaire général de l'OCI lors de la 43e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI étant ouverte par le président provisoire d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, à Tashkent, Ouzbékistan, le mercredi 18 octobre. Madani a dit, le cinquième sommet extraordinaire de l'OCI sur la Palestine et la ville sacrée Jérusalem, étant tenu le mars 2016 à Jakarta, est une pénétration qui a rappelé l'importance de la résolution des conflits au Moyen-Orient dans son ensemble. Les ministres des Affaires étrangères de Palestine et de Koweït ont aussi transmis l'affirmation similaire. La réunion qui a pour thème l'éducation et lumière, le chemin vers la paix et la créativité, a été suivie par 24 ministres des Affaires étrangères de l'OCI, y compris le ministre des Affaires étrangères Retno LP Marsoudi. Au deuxième jour de la réunion, le mercredi 19 octobre, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique ont adopté la résolution relative à la création du groupe de contact sur la paix et la résolution des conflits. Le groupe de contact sur la paix et la résolution des conflits est l'idée du président Joko Widodo étant proposé dans la réunion informelle sur le renforcement de la solidarité et de la coopération dans le monde islamique le 22 avril 2015 au milieu de la 65e commémoration de la conférence afro-asiatique du 19 au 24 avril 2015. Le groupe de contact sur la paix et la résolution des conflits était premièrement établi sous l'initiative des pays membres de l'OCI. Divers autres groupes de contact de l'OCI étaient l'initiative du secrétariat de l'OCI. Plus précisément prévu, le groupe de contact sur la paix et la résolution des conflits peut être exploité par les pays de l'OCI à élaborer une stratégie commune pour faire face aux problèmes tels que dans la lutte contre le radicalisme, l'extrémisme et le terrorisme. Outre l'établissement du groupe de contact sur la paix et la résolution des conflits, la 43e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères a également adopté 114 résolutions relatif aux questions d'intérêt commun, à la fois liées à la situation de conflit dans les différents pays membres de l'OCI, tels que la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie et le Yémen, ainsi que diverses questions thématiques particulières, telles que la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, ainsi que les efforts pour aider la minorité musulmane dans de nombreux pays non membres de l'OCI. Chers amis, C'était la mise au point.
Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Puspayoga, a dit que les PME de l'Indonésie ont dû comprendre la technologie et utiliser Internet comme la partie d'une stratégie de marketing et l'image du produit. Parce que l'ère de la numérisation est devenue une partie intégrante du commerce intérieur et le marché international. Puspayoga, mars de l'inauguration du village des PME numériques au centre intégré à Cianjur, Java West, a déclaré récemment que la digitalisation aura un impact sur l'amélioration de productivité et des services des PME. Il y a des défis pour réaliser, à savoir comment maintenir la continuité et la qualité du produit. Si cette question peut être résolue, les PME seront un succès et une croissance rapide. Le chef de l'Agence nationale de la planification de développement, Bappenas Bambang Brojonegoro, a estimé vendredi que le développement des infrastructures dans ce pays devait être approprié pour être vraiment bénéfique pour beaucoup de gens. Les besoins de financement du développement des infrastructures pour la période 2015 jusqu'à 2019 est d'environ 4,79 trillions de roupies. Baba a dit qu'afin d'encourager la participation privée, l'un des schémas importants est la coopération entre les gouvernements et les entreprises dans son développement. La réalisation de la clôture financière de la coopération entre le gouvernement et des entreprises pour la période 2015 à 2016 atteint 63,86 trillions de roupies. En plus des programmes de coopération entre le gouvernement et les entreprises, l'alternative de financement qui continue d'être encouragée par le ministère de la Planification, Bappenas, est le financement d'investissements non bougés, en utilisant entre autres les sources de financement à long terme, telles que des fonds de pension et sociétés de financement de l'infrastructure. Poso organisera un événement touristique, Festival du charme de l'arc tectonique Poso. Selon le raisin de Poso d'Armin Agustinus Sigilipu, le festival de cette année sera différent des années précédentes et assistera par le vice-président Yusuf Kala le 5 novembre. D'Armin Agustinus Sigilipu a déclaré récemment à Jakarta qu'il cible la visite des touristes jusqu'aux 50 000 personnes. Ce festival est organisé pour démontrer aux touristes nationaux et étrangers que la région de Poso est maintenant plus sûre après le conflit. Il essaie de montrer la région de Poso aujourd'hui est plus sûre qu'il y a quelques années. Ceci est prouvé par la mise en œuvre des activités qui ont été également assistées par les milliers de personnes à Poso et les régions avoisinantes. Le dernier, le premier ministre malaisien Najib Razak et le ministre indonésien du Commerce Enggar Tias Tolukito sont d'accord pour réactiver Des Malaysia Indonésie ou Des Malindo pour renforcer les relations du commerce des deux pays. Enggar Tias Tolukito, à l'occasion du forum d'affaires indo-malaisien à Kuala Lumpur, a dit récemment que dans l'avenir, il y aura un représentant dans les ministères des deux pays pour qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Avant qu'Enggar Tias Tolukito, avec le groupe du président indonésien de chambre et de l'industrie, Rosan Ruslani, ont été raconté le premier ministre Najib Razak au Parlement, dans le Parlement local, en mars, d'une rencontre entre le Premier ministre avec les membres du Parlement. Les deux parties veulent augmenter les relations commerciales, selon Enggar Tias Tolukito. Il a également discuté de l'étiquette halal. Il va également discuter ensemble sur l'huile de palme brute ou CPO des deux pays pour faire face à la campagne négative sur la santé.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Ce sont toujours des neuf phrases qu'on vous propose à la voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Ce soir, nous vous introduisons le rituel traditionnel en Provence, Sulawesi du Sud-Est, Tuturangiana Andala. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Makassar est l'une des plus petites îles qui sont incluses dans l'administration de la ville Bau-Bau, Sulawesi du Sud-Est. Cette île, dans son développement autour des années 1980, plus populairement connue comme Puma, l'abréviation de l'île Makassar. La communauté locale est pêcheur parce que la zone est située sur la côte. Ils sont fortement tributaires des captures marines. Pour obtenir la bénédiction du Créateur et les fruits de mer abondants, les gens sur l'île Makassar tiennent un rituel associé à la mer chaque changement de saison. Un rituel marin tenu par la communauté locale est le rituel Kutumie Tuturangiana Andala. Le rituel traditionnel Tuturangiana Andala est un rituel de donner une offrande à la puissance de la mer, demandant de conférer la subsistance et de garder de la détresse des pêcheurs locaux lors de la pêche. Les ancêtres de la communauté de l'île Makassar interprètent la famine de poissons que la colère de la règle de la mer aux pêcheurs qui seulement attrape des poissons dans la mer sans donner quelque chose en retour à la mer. Le danger de l'onde océanique accompagné de vents forts qui coulent souvent le bateau des pêcheurs est interprété comme une forme de colère du dirigeant de la mer contre les pêcheurs qui dépendent de fruits de mer. Le rituel Tuturangiana Andala est commencé avec Batata, soit la demande de prière à la règle du surnaturel afin de recevoir les offrandes des pêcheurs de l'île. Batata est fait par l'ébé ou ancien autochtone. Avant la mise en œuvre de Batata, les dirigeants traditionnels ont mis en place les offres contenant différents types de produits alimentaires typiques de la région comme cucur, onde-onde, sangara, soit banane, waje, soit riz gluant, le riz, l'œuf et la feuille de betel, de noix d'arec, etc. sur 4 radeaux de bambou. Le radeau de bambou à la mesure d'un demi-mètre carré est connu sous le nom de kabin tingia. Ces petits radeaux sont équipés chacun par 4 petits drapeaux rouges dans les 4 coins. Kabin tingia est assemblé dans 5 bâtons de bambou comme une base adaptée à la taille de kabin tingia. 5 bâtons de bambou sont ainsi que le support pour que kabin tingia flotte à la surface de la mer. Après Batata, les chefs traditionnels, aidés par plusieurs dirigeants indigènes, ont continué avec l'abattage d'un agneau qui avait été préparé. Une chèvre est abattue et le sang prélevé pour être stocké dans le cadre de l'offre aux dieux. Le sang de chèvre est versé dans le récipient qui est composé de 4 morceaux de bambou que le verre est uni dans kabin tingia. Toutes les offres de ce kabin tingia sont puis reprises à la mer, accompagnées de gongs et de tambours battants. En arrivant dans le milieu de la mer, les offres sont flottées aux 4 points de la mer qui sont considérés comme sacrés. par la communauté locale. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain! Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
C'est auditeurs de TIS, bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésien couleur. Ce soir, nous voulons discuter la représentation des marionnettes en cuir comme moyen d'éducation, de diplomatie et politique. Wayang kulit, soit marionnette en cuir, est l'un des arts traditionnels indonésiens qui se développe en particulier à Java. Marionnette en cuir est jouée par quelqu'un appelé dalang, soit serveur. Dalang est également narrateur des dialogues des personnages des marionnettes accompagnés par la musique du gamelan jouée par un groupe de joueurs appelé Nayaga et des chansons chantées par Pelantun ou Pesinden, soit le chanteur ou la chanteuse. Un spectacle de marionnettes en cuir a été reconnu par l'UNESCO le 7 novembre 2003 comme un œuvre culturelle qui est impressionnant dans le domaine de l'histoire narrative et un patrimoine merveilleux et précieux. L'histoire qui est présentée est généralement tirée du texte du Mahabharata et Ramayana. L'histoire ne se limite pas uniquement en conformité avec les normes standards, mais Dalang peut aussi jouer le caractère karangan ou composition. Par conséquent, le professeur de la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de 11 mars ou UNS, Hendrik Purwasito, qui est aussi un Dalang, rend la représentation des marionnettes en cuir comme une méthode d'apprentissage. Cette méthode est connue sous le nom Wayang Edutainment. Hendrik a expliqué que Wayang Edutainment est inspiré par les méthodes de propagande de Wali Songo, surtout Sunan Kalijaga. La différence des spectacles de marionnettes sont embarrés dans des spectacles interactifs qui offrent une occasion pour le public de demander dans le milieu du spectacle. En plus des questions fréquemment posées, le spectacle est également couplé à l'analyse d'un sujet des experts présents à ce propos. Cette méthode de wayang edutainment était pour la première fois tenue à Padepokan Mayangkara pour la course enseignée en géographie politique en 2013. Le deuxième spectacle a eu lieu au cours de la conférence inaugurale des nouveaux étudiants en 2014 dans le parking de FISIP UNS. À cette époque, Wayang Edutainment était servi à enseigner la politique et la diplomatie qui est matérielle dans certains sujets tels que relations internationales, introduction à la science politique, la théorie de la diplomatie, technique de négociation et de lobbying, ainsi que pratique de diplomatie. Dans le spectacle de marionnettes, Hendrik présente une histoire classique de Mahabharata et Wayang Purwa à Java en utilisant la marionnette classique. Hendrik reste guidé par les standards de marionnettes, des figures et des noms des personnages, sauf que le contenu de la conversation des figures sont adaptés au thème qui est en cours de discussion. Pour régler les fins de mise en scène, le matériel des cours et le fond de l'auditoire Peyronnette est présenté avec plusieurs langues comme javanaise, indonésien, anglais et même français. Hendrik a expliqué que l'utilisation de la langue nationale et la langue étrangère fait partie de la créativité de l'entertainment, apprendre tout en divertissant. Chers amis, c'était l'Indonésien couleur pour ce soir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant du divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui va vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir ces amis de la voix de l'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique pour l'édition samedi avec moi Yubi Suryanto qui va vous accompagner pendant 15 minutes. Vous pouvez écouter nos émissions par l'onde courte 900-200 kHz ou sur internet à l'adresse www.voi.co.id ou à votre application RRI Play à Android. Et nous invitons également à rejoindre la VOI sur Facebook, Voice of Indonesia, ou à nous suivre sur Twitter, @voiindonesia. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter une chanteuse indonésienne ce soir. Nous vous présentons Ruth Sahanaya avec sa première chanson intitulée Astaga.
Yang
Chers auditeurs et auditrices, c'était Astaga chanté par Ruth Sahanaya. Elle est née à Bandung, Java West, le 1er septembre 1966. Ruth est l'une des trios divas indonésiennes, ensemble avec Chris Dayanti et Titi Dwi Jayanti. Le troisième enfant des quatre enfants du couple Alfares Edward Sahanaya est Mateda David, en sanglant des Moulouks et Sangir Talaud. Depuis son enfance, elle aime à chanter et a gagné souvent le prix du Festival des chants. Ruth a commencé ses rudiments comme une chanteuse en 1983, quand elle a rejoint le 5 concours de chants. Du concours, elle a gagné le premier prix et deuxième prix pour trois autres concours. Ruth, qui a le surnom Ute, a déménagé à Jakarta pour développer sa carrière. À Jakarta, la carrière d'Ute commence à briller. Après avoir remporté de nombreux prix dans divers concours nationaux et internationaux, dont l'un est Live Music Concert à Kuala Lumpur en Malaisie, Ute a sorti son premier album intitulé Blanche comme l'amour, qui a été publié en 1987 sur la maison de disques Lornier Aquarius Music Indo. Et cet album a explosé directement dans le marché. Le nom Ute est de plus en plus populaire quand elle a chanté une belle chanson intitulée Tu es tu. Si jamais on écoute la chanson intitulée Derita, Kesayanganku, chantée par Ruth Sahanaya. Bonne écoute.
Setiap kata yang terucap tak lagi mampu teduhkan hati. Ku tak ingin untuk berhenti mencinta dirimu, luka kesayanganku.
Sayanganku.
Chers auditeurs, Ruth Sahanaya a sorti l'album Seputika en 1987, Tak Terduga en 1989, Yang Terbaik en 1994, Ute en 1996, Kasih en 1999, Yang Kurindukan en 2001 et puis La Meilleure Hits en 2002, avec une chanson supplémentaire intitulée Mengerti la Kasih. En 2008, Ute a publié encore un mini-album ensemble avec trois divas intitulé Lot Love. Giving My Best en 2009 et Thankful en 2010. Bon alors, ses amis, avant de nous terminer notre programme musical ce soir, on écoute deux chansons de Ruth Sahanaya intitulées Love Will Find a Way et A Lot of Love. Bonne écoute et au revoir.
Terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti. Temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang.
Ces amis, il y en a des différents tous les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles, donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Terlalu indah dilupakan.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Dan dirimu, ku selamanya.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.